Donc 1930, il y a non seulement l'idée d'un univers en expansion, etc., mais c'est l'idée que si je passe le film de l'expansion à l'envers, alors il pourrait y avoir ce moment, je le décrivais comme ce jour qui n'avait pas d'hier parce qu'hier il n'y avait pas d'espace, un moment initial, premier moment de l'univers, donc une sorte de commencement. Commencement naturel, dit Georges Lemaître, commencement naturel, commencement physique, bon. Et Georges Lemaître est le premier, en 1931, dans la revue Nature, à introduire l'idée d'une singularité initiale, donc d'un début naturel de l'univers. Commencement naturel, et Lemaître dit bien, commencement naturel et non pas création, car, dit Lemaître, le commencement naturel, c'est comme le sommet d'un cône inversé, c'est comme le fond de la coupe conique de Champagne, c'est un point physique. D'accord ? Et, dit Lemaître, il ne faut pas confondre ça avec la création. Il disait souvent, j'ai bien trop de respect pour Dieu que pour en faire simplement une hypothèse de la physique. Donc, ce premier moment est encore un événement de la physique. Alors, c'est très important de comprendre à la fois, il ne s'agit pas de la création, mais tout le monde va y voir la création. Alors pourquoi ? Parce que on a l'impression que si l'univers a un commencement, alors nécessairement il a dû être mis en mouvement par un créateur, et donc le créateur existe. Mais le maître fait remarquer la première chose, c'est que le commencement de l'univers au sens de la physique, c'est comme un ballon dégonflé, ou c'est comme le sommet du cône ici, c'est un point physique. Donc ce n'est pas plus un point théologique ou métaphysique ou philosophique, si vous voulez, qu'un autre point du cône. Si on regarde ça dans la perspective de la relativité générale, on pourrait dire ce point peut exister de toute éternité. Pour un matérialiste, le matérialiste peut dire, ce point, c'est un... C'est, si je regarde l'évolution globale de l'univers comme ceci, ce point, il a un statut d'éternité. Il n'y a pas de raison d'en faire le lieu d'une action divine particulière. Donc le maître dit, attention, commencement n'est pas création. Et en ce sens-là, il reprend une distinction qui se trouve déjà chez saint Thomas. Saint Thomas, au XIIIe siècle... Et plus exactement, dans la somme théologique, hein, mais aussi dans un petit opuscule qu'on appelle De Eternitate Mundi, sur l'éternité du monde, et aussi dans le deuxième livre des commentaires des sentences de Pierre Lombard, hein, dont vous savez que bon, saint Thomas a écrit la somme théologique, qui est en gros le syllabus pour les étudiants en théologie à la Sorbonne. Et en 1270, il a écrit ce petit livre sur l'éternité du monde. Et il a traité aussi de cette question-là dans les commentaires des sentences de Pierre Lombard, qui est une œuvre, comme on en faisait beaucoup au Moyen-Âge, où on commentait des sentences d'un maître en théologie. Et dans ces trois œuvres-là, Thomas se pose la question de savoir, est-ce qu'un monde qui est créé doit nécessairement avoir commencé ? Est-ce qu'un monde créé doit nécessairement avoir commencé ? Et Thomas dit, il faut d'abord savoir ce que c'est que la création. La création, au sens thomiste du terme, et pourrait-on dire au sens chrétien du terme, la création, c'est une relation métaphysique par laquelle Dieu pose et soutient le monde dans son être. Donc, c'est une relation métaphysique, donc qui n'est pas de l'ordre empirique. La création ne se situe pas dans l'espace et dans le temps. L'espace et le temps sont posés, d'une certaine manière, dans leur être, par l'acte créateur. Espace, temps et matière sont, dans le fond, des effets de cette relation créatrice, et non pas, la relation créatrice n'est pas dans l'espace et dans le temps. D'accord ? Donc Dieu ne crée pas dans un temps préexistant. Okay. D'où l'inconsistance de certains propos qui consisteraient à dire « à un certain moment, il n'y avait rien ». On pourrait avoir tendance à prendre ce langage. « À un certain moment, il n'y avait rien ». Alors, s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de moment. Donc, il n'y avait pas à un certain moment. Oui.
Est-ce que vous pouvez
Oui, parce que si on veut, qu'est-ce que le temps? Bon, il faudrait qu'on fasse un cours sur qu'est-ce que le temps. Mais si on prend la définition aristotélicienne et thomiste du temps, le temps, c'est le nombre du mouvement. C'est-à-dire, c'est le paramètre du changement. Il n'y a pas de temps si ça ne change pas. Pour Aristote, hein, pour Thomas d'Aquin aussi. Donc le temps, c'est un paramètre qui indexe le changement. Donc, mais le changement de quoi? Ben, d'une réalité qui peut changer. Une réalité qui existe. Et pour qu'elle existe, elle doit avoir reçu son être d'une cause. Donc, s'il y a du temps, le temps est une caractéristique de la création, de ce qui est créé. Vous voyez? Mais on pourrait dire, Dieu ne crée pas dans le temps. On ne peut pas dire, à un certain moment, il n'y avait rien. Parce que, en fait, s'il n'y avait rien, il n'y avait rien. D'accord? Bon, il y a au moins Dieu. Donc, on ne peut pas dire, à un certain moment, il n'y avait rien. Parce que, à un certain moment, ça suppose du temps, et c'est pas rien. Bon. Mais on ne peut pas supposer non plus que Dieu crée dans le temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Le temps est créé, d'une certaine manière. Oui.
Ce matin, vous parliez de la chitmone de Dieu.
Oui.
Et alors, c'est pas au moment de la base.
Mais justement, c'est très mauvais, ça. Hein, c'est la critique qu'on pourrait faire. Dieu ne donne aucune chitmone. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que la chitmone est une impulsion physique. Et donc, ce que le maître disait, il disait, commencement, la chitmone, c'est le commencement en physique, si on veut. Mais une chitmone, c'est une impulsion physique, c'est un processus physique. Dieu n'est pas un processus physique, et la création n'est pas un processus descriptif par la physique. Et ça, c'est le grand, tu fais bien de le remarquer, parce que c'est le grand tort de Jean Guiton et les frères Bogdanov, quand dans leur livre « Dieu et la science », ils disaient, Dieu crée entre 0 et 10 exposants moins 43 secondes après le Big Bang. D'accord? Il disait, Dieu crée dans cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc je ne sais pas ce qui s'y passe là, donc Dieu crée là. C'est là le lieu de la création. Et alors, d'une certaine manière, on aurait pu leur dire, vous laissez à Dieu très peu d'espace, parce que là, les dimensions de l'espace, c'est 10 exposants moins 33 cm. Donc, comment Dieu... Enfin, on lui laisse peu d'espace, et après, on ne s'en occupe plus. Mais la création, ce n'est pas une impulsion. Ce n'est même pas un processus dans la physique. Ce n'est même pas quelque chose qui est lié à un changement, à des forces. Non. C'est une relation métaphysique de dépendance par laquelle, dans le fond, Dieu fait surgir de rien d'autre, d'aucune matière préexistante. Dieu met dans l'existence une réalité qui n'est pas lui et qu'il fait exister. Donc, le propre de la création, c'est la relation. Donc, la création, c'est aujourd'hui. La création, la théologie de la création, nous concerne aujourd'hui, maintenant. Hier, demain, si Dieu le veut, bien sûr au Big Bang, mais pas plus au Big Bang d'une certaine manière que maintenant. Parce que maintenant, si nous existons, il y a une cause, et pour nous, la cause, c'est Dieu qui pose le monde dans son existence. Donc, la création, c'est maintenant. Et c'est bien l'idée de saint Thomas. La création est une relation qui pose le monde dans son être, relation qui ne peut pas se situer dans l'espace et dans le temps. C'est une relation métaphysique qui échappe à toute description de type empirique et qui est cet effet, d'une certaine manière, qui est l'expression d'un don qui n'est d'ailleurs pas nécessaire puisque Dieu ne crée sous l'effet d'aucune nécessité, si ce n'est que la nécessité de l'amour gratuit, par lequel il pose l'existence du monde. D'accord? Donc c'est une relation. On pourrait dire une relation continue, creatio continua. C'est une relation continue qui pose le monde dans son existence et le soutient. Bon. Et donc saint Thomas pose la question de savoir, un monde qui est créé a-t-il besoin d'avoir un commencement? Hein? Un commencement de la durée. Est-ce que c'est nécessaire? Et saint Thomas analyse la situation, en ayant parcouru d'ailleurs les commentateurs arabes, et on arrive à l'idée que on ne peut pas démontrer par la raison que le monde a commencé. D'ailleurs, il passe en revue les thèses d'Aristote, qui voudrait montrer l'éternité du monde. Il dit, on ne peut pas montrer que le monde est éternel, mais on ne peut pas non plus montrer, comme c'était le cas dans certaines écoles franciscaines, on ne peut pas montrer non plus qu'il a commencé par des arguments rationnels. D'accord? Création, c'est pas commencement, et pour lui, on ne peut pas montrer que le monde a commencé ou n'a pas commencé par la raison. Que le monde n'ait pas toujours été, dit saint Thomas, cela seul, la foi peut l'attester. Hein? Donc c'est dans la prima pars, première partie de la somme. Bon, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est à la question 46. Article 3, je pense, il faudrait vérifier. Mais c'est la citation latine, c'est quod mundum non semper fuisse, sola fide tenetur. Et demonstrative probari non potest, sicut dictum est de trinitate. Donc, que le monde n'ait pas toujours été, cela seul la foi peut le dire, et on ne peut pas le démontrer de manière probante par la raison, comme on ne peut pas démontrer de manière probante par la raison que Dieu est Trinité. Et la raison est la suivante, dit Thomas, c'est que on ne peut pas démontrer la nouveauté radicale du monde, novitas mundi, on ne peut pas montrer la nouveauté radicale du monde, ex parte mundi. Donc, à partir en restant à l'intérieur du monde, si vous voulez.